Émile et les détectives par Erich Kästner, deuxième cassette, première face, page 66. Chapitre 6, la ligne de tramway 177. Émile eût préféré courir après son voleur, se poster devant lui et lui dire « Rendez-moi mon argent ». Mais il était très peu probable que celui-ci eût répondu « Très volontiers, mon enfant, le voilà, et je ne recommencerai pas. » Le plus important pour le moment, c'était de ne pas perdre l'homme de vue. Émile se dissimulait derrière une grosse dame, et il jetait un coup d'œil, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour s'assurer que l'autre était toujours visible et ne s'enfuyait pas au pas de gymnastique. Le coquin s'arrêta à la porte de la gare, regarda autour de lui et dévisagea les gens qui se pressaient derrière lui, comme s'il eût cherché quelqu'un. Émile, en s'approchant de la sortie, se serrait de plus en plus contre la grosse dame. Qu'allait-il arriver? Il faudrait passer devant l'homme dans un instant. Son manège secret serait découvert. La grosse dame consentirait-elle à lui venir en aide? Mais elle ne le croirait certainement pas. Et le voleur dirait « Permettez, madame, croyez-vous que j'ai besoin de voler les enfants ?» Alors tout le monde regarderait l'enfant et crierait « Ça, c'est le comble! Calomnier une grande personne! Non, mais vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui est trop impudente !» Les dents d'Émile commençaient à claquer. Heureusement, l'homme tourna la tête et gagna la rue. Avec la rapidité de l'éclair, Émile se posta derrière la porte, posa sa valise à terre et regarda à travers la vitre grillagée. Mon Dieu, qu'il avait mal au bras! Le voleur descendait lentement la rue. Il jeta encore un coup d'œil derrière lui et continua son chemin assez tranquillement. Un tramway portant le numéro 177 arrivait par la rue de gauche et s'arrêta. L'homme hésita une seconde, puis monta dans la première voiture et s'assit à côté d'une fenêtre. Émile empoigna de nouveau sa valise et, tête baissée, franchit la porte, traversa le hall, trouva une autre porte, descendit la rue en courant et atteignit la deuxième voiture du tramway par derrière au moment où le tramway s'ébranlait. Il jeta sa valise à l'intérieur, grimpa ensuite, poussa le bagage dans un coin et s'assit dessus pour reprendre souffle. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais, après, si l'autre descendait entre deux stations, on pouvait considérer l'argent comme perdu. Il était impossible de descendre en marche avec une valise, ça serait trop dangereux. Et ses autos? Elles glissaient si vite à côté du tramway, elles bondissaient, cornettes, tut-tut, lançait des signaux rouges à droite, à gauche, tournait, d'autres les suivaient. Quel bruit! Et que de monde sur les trottoirs! Et de tous les côtés, que de tramways, de voitures, d'autobus à deux étages, à tous les coins de rue des marchands de journaux. Des devantures splendides avec des étalages de fleurs, de fruits, de livres, de montres en or, de vêtements, de linge de soie, et de hautes, si hautes maisons. Ainsi donc, c'était là Berlin. Émile aurait bien volontiers considéré ce spectacle tout à son aise, mais il n'en avait pas le temps. Dans la première voiture se trouvait l'homme qui détenait son argent. Cet homme, à chaque instant, pouvait descendre et se perdre dans la foule. Il n'y aurait plus d'espoir. Impossible de retrouver quelqu'un là-bas au milieu de ces voitures, de cette foule et de ces autobus. Émile se pencha. Le coquin ne s'était-il déjà pas sauvé? Mais alors, Émile, dans ce tramway, se laissait emporter sans savoir où, sans savoir pourquoi, et sa grand-mère, pendant ce temps, l'attendait à la gare de Friedrichstrasse, devant le kiosque de la fleuriste, et elle ne se doutait pas, certes, que son petit-fils, en grand souci, traversait Berlin sur la ligne du 177. C'était à en devenir fou. Le tramway arriva au premier arrêt. Émile ne quittait pas des yeux la première voiture. personne n'en sortit. Mais beaucoup de nouveaux voyageurs s'entassèrent dans les deux voitures. Émile fut bousculé. Un monsieur se fâcha parce qu'en se penchant, il encombrait l'entrée. « Tu ne vois donc pas que les gens veulent monter ?» grogna-t-il. Le contrôleur, qui donnait les billets à l'intérieur, tira un cordon. Une sonnerie retentit. « Ding, ding !» Le tramway reprit sa course. Émile regagna son coin. On l'écrasait, on lui marchait sur les pieds. Et tout à coup, avec effroi, il songea. « Je n'ai pas d'argent. Quand le contrôleur va revenir, il faudra que je prenne un ticket. Si je ne peux pas le payer, il va me faire descendre. Dans ce cas, je suis perdu. » Il examina ses voisins. Peut-être pouvait-il en tirer un par la manche et lui dire « Voulez-vous me prêter l'argent de mon billet ?» Ah, ils avaient tous des physionomies si sévères. L'un lisait son journal. Deux autres s'entretenaient d'un vol très important qui avait eu lieu dans une banque. « Ils ont creusé un véritable puits, » racontait le premier. « Ils y sont descendus et ils ont déménagé tous les coffres-forts. Le vol paraît s'élever à plusieurs millions. » « Il va être extrêmement difficile d'établir ce que contenait chacun des coffres, » dit le deuxième, « car les gens qui en louent ne sont pas obligés de donner à la banque des renseignements sur leurs dépôts. Évidemment. » Plus d'un va prétendre avoir enfermé pour plusieurs millions de diamants qui n'avaient en réalité mis dans son coffre qu'un tas de papier sans valeur ou une douzaine de cuillères en aluminium. Et les deux hommes se mirent à rire. « C'est exactement ce qui pourrait m'arriver, » songeait Émile tristement. « Si je raconte que M. Grundeis m'a volé 140 marques, personne ne me croira. Le voleur déclarera que je suis un menteur et qu'il n'y avait que dans ma poche que 3 marques 50. » Quelle histoire! Le contrôleur se rapprochait de la porte. Sur le seuil, il cria « Qui n'a pas son billet ?» Il détachait d'un bloc de grands billets blancs et faisait un trou dedans à l'aide d'un poinçon. Les gens de la plateforme lui tendaient l'argent et recevaient un billet. « Et toi ? » demanda-t-il à Émile. « J'ai perdu mon argent, monsieur le contrôleur, » répondit le jeune garçon. Personne n'aurait ajouté foi à son histoire de vol. « Perdu ton argent ? Je la connais, celle-là. Et où vas-tu ? » « Je ne sais pas encore, » marmotta Émile. « Bon, eh bien, descends à la prochaine station et tâche de savoir d'abord où tu veux aller. »«
Non, c'est impossible. Faut absolument que je reste là, monsieur le contrôleur. Je vous en prie. »
« Quand je te dis de descendre, tu dois descendre. C'est compris ?»« Donnez un billet à ce garçon, » dit le monsieur qui lisait son journal, et il tendit de l'argent au contrôleur. Le contrôleur donna un billet à Émile et expliqua au monsieur. « Si vous saviez combien ces gosses montent tous les jours dans le tramway et ils prétendent avoir oublié leur argent, et après, ils se moquent de nous dans notre dos. »
« Celui-là ne se moquera pas de nous, » répondit le monsieur.
Le contrôleur rentra dans l'intérieur de la voiture.
« Oh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, monsieur, » dit Émile.
« Je t'en prie, il n'y a pas de quoi, » répondit le monsieur qui se replongea dans son journal. De nouveau, le tramway s'arrêta. Émile se pencha pour voir si son homme descendait. Il ne l'aperçut pas.
« Puis-je vous demander votre adresse ?» dit-il au monsieur.
« Pourquoi faire ?»«
Afin que je vous rende l'argent dès que j'en aurai un peu. Je vais rester peut-être une semaine à Berlin et je passerai bien devant chez vous. Je m'appelle Tischbein, Émile Tischbein de Neustadt. »«
Non, » répondit le monsieur, « je te fais cadeau de ton billet. Veux-tu encore quelque chose ?»«
Jamais de la vie, » répondit Émile avec fermeté, « je n'accepterai plus rien. »
« Comme tu voudras. » Et le monsieur reprit son journal. Le tramway repartit, s'arrêta encore et repartit. Émile lut le nom d'une belle et large avenue. C'était la Kaiserallee. Kaiserallee. Il continuait sa route sans savoir où il allait. Un voleur était assis, là, dans la voiture d'avant.
Peut-être y avait-il encore bien d'autres voleurs dans ce tramway. Personne ne se souciait d'Émile. Un étranger lui avait fait cadeau de son billet, mais déjà cet étranger ne pensait plus qu'à son journal. La ville était bien grande et Émile si petit. Personne ne lui demandait pourquoi il n'avait pas d'argent et pourquoi il ne savait pas où il allait. Berlin comptait 4 millions d'habitants. Pas un ne s'intéressait à Émile Tischbein. Personne ne veut rien savoir du souci des autres. Chacun a bien assez à faire avec ses propres soucis ou ses propres joies. Si même quelqu'un vous répond « Cela me fait vraiment de la peine », au fond, il pense surtout en général « Laissez-moi donc tranquille ». Qu'allait-il arriver ? Émile respirait péniblement et il se sentait seul, bien seul. Chapitre 7. Grande effervescence, rue Schumann, SCHU MA 2N. Tandis qu'Émile roulait dans le tramway 177, qui longeait la Kaiserallee sans savoir où il allait aboutir, sa grand-mère et Pony Bibi, sa cousine, l'attendaient à la gare de Friedrichstrasse. Elle s'était postée, comme convenu, devant le kiosque à fleurs, et elle regardait l'heure constamment. Elles virent passer beaucoup de voyageurs, et des malles, et des caisses, et des valises, et des sacs, et des bouquets de fleurs. Mais Émile n'était pas parmi eux. « Il a beaucoup grandi, sans doute, » demanda Pony Bibi, en poussant sa petite bicyclette nickelée de droite et de gauche. Il avait d'abord été convenu qu'elle ne l'emporterait pas. Mais elle avait tant et si bien ronchonné que sa grand-mère avait fini par lui dire « Emmène-la, tête de mule !» Sur quoi la tête de mule retrouva sa bonne humeur. Elle jouissait à l'avance des regards émerveillés qu'Émile allait jeter sur sa belle bicyclette. « Il va la trouver drôlement belle !» se disait-elle, et elle était sûre de son affaire. La grand-mère commença à manifester de l'inquiétude. « Je me demande ce que cela veut dire. Voilà qu'il est déjà 18h40. Le train devait être arrivé depuis longtemps. » Elles patientèrent encore quelques minutes. Puis la grand-mère envoya la petite fille au renseignement. Pony Bibi, naturellement, prit sa bicyclette. « Pouvez-vous me dire, monsieur l'inspecteur, où se trouve le train de Neustadt ?» demanda-t-elle à l'employé qui, à l'entrée du quai et armé d'un poinçon, veillait à ce que chaque voyageur passant devant lui lui présentât un billet. « Neustadt ? Neustadt ?» répéta-t-il. « Ah oui, le train de 18h17, ben, il est arrivé depuis longtemps. »« Oh, quel ennui ! Nous attendons mon cousin Émile là-bas devant le kiosque à fleurs. »« Je suis ravi, » dit l'homme. « Pourquoi êtes-vous ravi, monsieur l'inspecteur ?» demanda Pony intrigué, et elle se mit à jouer avec la sonnette de sa bicyclette. « Drin, drin !» L'employé ne répondit pas et tourna le dos à l'enfant. « Ah ben, vous êtes un drôle de type, » dit Pony, vexé. « Adieu. » Quelques personnes se mirent à rire. L'employé, furieux, se mordit la lèvre. Et Pony Bibi, la tête haute, retourna vers le kiosque de la fleuriste. « Le train est en gare depuis longtemps, grand-mère. »« Qu'a-t-il bien pu lui arriver ?» dit la vieille dame. « S'il n'avait pas pu partir, sa mère m'aurait envoyé une dépêche. » Il s'est peut-être trompé à la descente du train, mais nous nous étions cependant bien expliqués dans la lettre. « Cela n'aurait rien d'étonnant, » assura Pony, faisant l'importance. « Il s'est certainement trompé à la descente. Ces garçons sont tellement étourdis. Veux-tu parier que j'ai raison ?» Et comme il n'y avait rien d'autre à faire, elles recommencèrent à attendre. 5 minutes passèrent. Puis 5 minutes encore. « Ce n'a plus aucun intérêt, vraiment, » dit Pony à sa grand-mère. « Nous ne pouvons pas prendre racine ici. Y a-t-il un autre kiosque à fleurs ?»« Vas-y voir, mais ne reste pas trop longtemps. » Pony, avec sa bicyclette, inspecta la cour de la gare. Il n'y avait aucun autre kiosque à fleurs. Elle interrogea encore 2 contrôleurs et revint très fière auprès de sa grand-mère. Non, dit-elle, il n'y a pas d'autre kiosque. Ce serait d'ailleurs étrange. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, le prochain train de Neustadt arrive à 20h33, c'est-à-dire un peu après 8h30 du soir. Nous n'avons plus à présent qu'à rentrer à la maison. À 8h exactement, je me remettrai en route avec ma bicyclette. Et s'il n'arrive pas cette fois-là, il prendra quelque chose. Exprime-toi plus convenablement, Polly, voyons. Je lui laverai la tête si tu aimes mieux, grand-mère. La grand-mère avait un visage soucieux et secouait la tête. Toute cette histoire ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas, dit-elle. Quand elle était agitée, elle répétait deux fois les mêmes phrases. Elles revinrent lentement à la maison. En chemin, sur le pont Weidendamm, Weidendamm, Pony Bibi proposa. « Veux-tu t'asseoir sur mon guidon, grand-mère ? » « Tais-toi donc !»« Mais pourquoi ? Tu n'es pas plus lourde qu'Arthur Zicklers ?» Z-I-C-K-L-E-R-S. « Il s'y assied souvent. »« Si cela arrive encore une seule fois, dit la grand-mère, ton père te prendra ta bicyclette pour toujours. » « Oh, mon Dieu, on ne peut rien vous raconter à vous autres, grogna Polly. » L'heure arrivée à la maison, 15 rue Schumann, chez les parents de Pony, qui s'appelait Heimbold, H-E-I-M-B-O-L-D, suscita une grande agitation. Tout le monde se demandait où était Émile. Le père conseilla de télégraphier à la mère d'Émile. C'était une époque où peu de gens avaient le téléphone. Et quand on voulait faire savoir une nouvelle rapidement, on envoyait un télégramme. « Bonté divine !» répondit sa femme, la mère de Pony. « Mais elle s'inquiéterait terriblement. Non, nous retournerons encore une fois à la gare vers 8h. Il arrivera peut-être par le prochain train. »« Espérons-le, gémit la grand-mère, mais c'est plus fort que moi. Cette histoire ne me dit rien qui vaille, rien qui vaille. » Cette histoire ne me dit rien qui vaille, répéta Pony Bibi en secouant sa petite tête d'un air songeur. Chapitre 8. Où apparaît le jeune homme à la trompe de bicyclette. Au coin de la Kaiserallee et de la rue Trautenau, T-R-A-U-T-E-N-A-U, l'homme au chapeau melon descendit du tramway. Émile l'aperçut, saisit sa valise et son bouquet de fleurs, dit au monsieur qui lisait son journal « Je vous remercie encore infiniment, monsieur. » Et il descendit vivement. Le voleur passa devant la première voiture du tramway, traversa les rails et gagna le trottoir opposé. Le tramway s'en alla, laissant la rue libre, et Émile remarqua que son homme, après un instant d'hésitation, se dirigeait vers la terrasse d'un café. Il s'agissait maintenant d'être prudent. Comme un vrai détective, Émile s'orienta rapidement. Apercevant au coin de la rue un kiosque à journaux, il courut se cacher derrière. La cachette était de premier ordre entre le kiosque et une colonne Maurice, M-O-2-R-I-F. Les colonnes Maurice, il y en a notamment à Paris et dans certaines villes de province et aussi à l'étranger, comme tu le vois, ce sont des espèces de grosses colonnes de petits kiosques, si tu préfères, sur lesquelles on colle des affiches pour annoncer des spectacles. Émile posa sa valise, enleva sa casquette et s'épongea le front. L'homme s'était assis à la terrasse du café, à la première rangée de tables. Il fumait une cigarette et paraissait ravi. Émile trouva odieux que le voleur fût si ravi, tandis que le volé était dans le souci. Mais, qui fait ? Au fond, quel sens cela avait-il de se cacher derrière ce kiosque à journaux, comme s'il avait été lui-même le voleur ? Était-il bien avancé de savoir l'homme assis au café Josty, J-O-S-T-Y, dans la Kaiserallee, en train de boire de la bière blonde et de fumer une cigarette. Si le coquin se levait, il faudrait recommencer à le poursuivre. et si au contraire il choisissait de ne pas bouger, Émile serait obligé de rester planté là, derrière le kiosque, au besoin jusqu'à ce qu'il lui poussât une longue barbe grise. Il ne lui manquait plus vraiment que de voir surgir derrière lui un sergent de ville et de l'entendre dire
« Mon garçon, tes allures sont suspectes. Allez, suis-moi sans résistance, sinon je serai obligé de te passer les menottes. »
Tout à coup, retentit derrière Émile un violent son de trompe. D'effroi, il fit un bond de côté et se retournant, il aperçut un jeune gamin qui riait en le regardant.
Allons, vieux, te trouves pas mal, dit le gamin.
Qu'est-ce qui vient de corner derrière moi, demanda Émile.
Eh bien, moi, mon vieux, naturellement. Tu viens sans doute de ton village. Sans ça, tu saurais depuis longtemps que j'ai une trompe de bicyclette dans la poche de mon pantalon, tiens. Je suis connu comme le loup blanc ici.
Ah, et moi, je suis de Neustadt. J'arrive de la gare.
Ah oui, de Neustadt?
Ça se voit à ton costume.
Retire ça tout de suite, toi, dit Émile, ou bien je t'en applique une que tu sentiras.
Là, vieux, dit l'autre conciliant, es-tu fâché? Il fait trop beau aujourd'hui pour boxer. Ben, si tu y tiens,
nous remettrons ça plus tard, expliqua Émile. Je n'ai pas le temps en ce moment.
Et il jeta un coup d'œil vers le café pour s'assurer que Grundeis y était toujours.
J'aurais cru au contraire que t'en avais beaucoup, dit le gamin. Monsieur s'installe avec sa valise et son bouquet de fleurs derrière le kiosque et joue tout seul à cache-cache. Faut avoir à ce jeu-là un bon bout de temps à perdre.
Non, dit Émile. Je surveille un voleur.
Quoi? J'ai bien entendu, un voleur? Et qui donc a-t-il volé?
Moi, dit Émile, qui se sentit très fier, dans le train, pendant que je dormais, 140 marques que je devais remettre à ma grand-mère à Berlin.
Puis il a quitté le wagon après son mauvais coup et il est descendu à la gare du Zoo.
Je l'ai suivi comme tu peux penser. Nous avons pris le tramway. Et maintenant, le voilà assis là-bas à la terrasse de ce café, avec son chapeau melon. Il paraît d'excellente humeur.
Eh ben, mon vieux, ça c'est merveilleux, s'écria le gamin, tout à fait comme au ciné. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Aucune idée. Rester toujours derrière lui. Pour le moment, je ne vois pas plus loin.
Préviens donc l'agent là-bas. Il l'arrêtera.
Impossible. Chez nous, à Neustadt, je pourrais bien avoir des démêlés avec la justice. Peut-être même suis-je surveillé de près. Et si je...
Compris, vieux.
Et ma grand-mère qui m'attend à la gare de la Friedrichstrasse.
Le petit gars à la trompe de bicyclette resta songeur un instant. Puis il dit.
Écoute, je trouve cette histoire épatante. Parole d'honneur, épatante. Et si ça ne t'ennuie pas, vieux, je vais t'aider.
Oh, je te serais tellement reconnaissant.
Dis donc pas de bêtises. Ça va de soi, voyons. Je m'appelle Gustave.
Et moi, Émile. Ils étaient enchantés l'un de l'autre et se donnèrent une bonne poignée de main.
À l'ouvrage maintenant, dit Gustave. Si nous ne faisons pas autre chose que piétiner ici, le bandit va nous échapper. As-tu encore un peu d'argent?
Pas un pfennig, répondit Émile.
Je te rappelle qu'un pfennig, ça fait à peu près 10 centimes.
Gustave appuya doucement sur sa trompe pour réveiller ses idées.
Ça ne servit à rien.
Si tu allais chercher un ou deux autres camarades, proposa Émile. Fameuse idée, vieux, s'écria Gustave enthousiasmé. Je n'ai qu'à siffler et à corner un peu dans les cours. En un instant, la boutique sera pleine.
Vas-y, conseilla Émile, mais reviens bien vite, sinon notre coquin va s'enfuir de nouveau.
Je devrais le suivre naturellement et je serai à tous les diables quand tu reviendras. Compris, vieux, je me dépêche, compte sur moi. D'ailleurs, notre bandit est bien installé là-bas devant un tas de bonnes choses. Il en a encore pour un moment.
Allons, au revoir, Émile. Je suis à moitié fou de joie. Ça va être une affaire du tonnerre.
Là-dessus, il s'esquiva. Émile se sentait merveilleusement soulagé.
La guigne reste la guigne, évidemment, mais trouver quelques camarades qui se mettent volontairement de votre côté, ça n'est pas une mince consolation.
Il surveillait attentivement le voleur qui se gobergeait là-bas, sans doute avec les économies de sa mère, et il n'avait qu'une inquiétude. Si le bandit se levait et s'enfuyait, Gustave, sa troupe et tout le reste ne serviraient de rien.
Mais M. Grundeis lui fit le grand plaisir de rester à sa place. Évidemment, s'il avait eu quelques soupçons de la conspiration qui se resserrait autour de lui comme les mailles d'un filet, il eut au moins commandé quelques machines volantes, car la situation devenait de plus en plus brûlante. Au bout de 10 minutes, Émile entendit de nouveau le son de la trompe. Il se retourna et aperçut 2 douzaines de gamins au moins qui, conduits par Gustave, venaient à grands pas par la rue Trautenau.
Stop tout le monde! Eh bien, qu'en dis-tu? Demanda Gustave, dont le visage rayonnait.
C'est formidable, dit Émile, qui, pour manifester sa voix, lui envoya une bourrade.
Mes amis, voici Émile de Neustadt, dit Gustave. Je vous ai déjà raconté l'affaire.
Là-bas, vous voyez assis le cochon qui lui a volé son argent. Celui de droite sur le bord de la terrasse, avec le melon sur le crâne. S'il nous échappe, nous ne sommes que des crétins. Compris ?
Mais Gustave, nous allons le coincer, dit un gamin qui portait des lunettes.
Celui-ci, c'est le professeur, expliqua Gustave. Émile lui tendit la main. Et toute la bande lui fut ensuite présentée à tour de rôle.
À présent, dit le professeur, il s'agit d'accélérer. Allons, d'abord, amenez la monnaie. Chacun donna ce qu'il possédait. Les piécettes tombaient dans la casquette d'Émile. On y vit même briller une pièce d'un marque. Peut-être 10 francs. Elle venait d'un très petit gamin qui s'appelait Vendredi. Il sautait de joie et il fut autorisé à compter la somme réunie.
Notre capital se monte à 5 marks, 75 pfennigs, dit-il à ses auditeurs attentifs.
C'est à peu près 56 francs 50.
Le mieux serait de partager cette somme entre 3 de nous pour le cas où nous serions obligés de nous séparer.
Très bien, dit le professeur.
Émile et lui reçurent chacun 2 marks, Gustave le reste, c'est-à-dire 1,65 marque.
Je vous remercie beaucoup, dit Émile. Quand nous l'aurons pris, je vous rendrai l'argent. Qu'allons-nous faire à présent? J'aimerais bien d'abord déposer ma valise et mes fleurs quelque part. S'il faut reprendre ma course, tout ça m'encombre.
Passe-moi ton Saint-Frusquin, mon vieux, dit Gustave. Je vais le porter tout de suite au café Josti. Je le laisserai au buffet.
Et par la même occasion, je vais flairer un peu notre voleur.
Sois prudent, observa le professeur. Le gars n'a pas besoin de savoir que des détectives sont sur sa trace. Ça compliquerait la suite des opérations.
Est-ce que tu me prends pour un idiot, marmonna Gustave.
Et il s'enfuit.
Ah ! Une belle tête photogénique, celle du monsieur, dit-il quand il revint. Tes affaires sont en sécurité. Nous pourrons les reprendre quand ça nous conviendra.
Il serait bon à présent, conseilla Émile, que nous tenions un conseil de guerre. Mais pas ici. Nous nous ferions remarquer.
Allons sur la place Nikolsburger. Nikolsburger,
proposa le professeur. 2 d'entre nous vont rester ici, derrière le kiosque, pour s'assurer que le type ne nous brûle pas la politesse. Nous laisserons 5 ou 6 estafettes chargées de nous prévenir si c'était le cas, et nous reviendrions alors au galop.
Laisse-moi faire, vieux, s'écria Gustave.
Et il commença à organiser le service.
Je reste ici aux avant-postes, dit-il à Émile. Ne t'inquiète pas, nous ne le laisserons pas filer. Et dépêchez-vous un peu, vous autres, il est déjà plus de 7 heures. Faites vite, s'il vous plaît. Il plaça ses estafettes. Les autres, Émile et le professeur en tête, gagnèrent la place Nikolsburger. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 90, Émile et les détectives, par Erich Kästner.